Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des experts. Au sommaire ce matin, le gouvernement a-t-il raison de vouloir ponctionner les caisses de l'Agirc Arrco, le régime de retraite complémentaire? Jusqu'où peuvent et doivent aller les mesures d'économie? Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, dénonçait ce week-end un concours Lépine des mesures d'économie. Pourra-t-on vraiment éviter les hausses d'impôts? C'est absurde, estime Camille Landais, le délégué, président délégué du CAE, le Conseil d'analyse économique. Absurde compte tenu de la situation économique du pays. On parlera également du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, rejeté par les sénateurs il y a quelques jours. La France peut-elle s'y opposer? L'accord est-il vraiment si mauvais pour notre économie? On en parlera avec nos trois experts. Et puis une carte blanche dans cette émission. Chacun de nos invités défendra dans le dernier quart d'heure un sujet qui lui tient à cœur. On parlera du DMA, le Digital Market Act. On parlera de la réindustrialisation de l'Europe et des prix de l'énergie. Comment arriver à des prix compétitifs? Voilà pour le sommaire. Vous pouvez également participer, envoyer vos questions, vos commentaires @StephPedrazzi sur Twitter, X maintenant. Je me ferai un plaisir de relayer vos commentaires auprès de nos invités. Soyez les bienvenus. Nos trois experts ce matin, Eli Cohen, directeur de recherche au CNRS, auteur de Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle, aux éditions Odile Jacob, Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur à la Schema Business School et co-auteur du Transport aérien aux éditions La Découverte, et Laurent Vronsky, l'industriel de l'équipe, directeur général d'Hervor, l'ingénierie de l'air comprimé. Vous êtes également secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles espérantistes. Banlieue. On va commencer par cette annonce du gouvernement, ponctionner une partie des réserves de l'Agirc Arrco, le régime de retraite complémentaire. C'est pour l'instant une idée mise sur la table. Elle avait été rejetée l'an dernier par les partenaires sociaux. Le gouvernement estime qu'une partie des excédents est liée à la réforme des retraites. L'excédent pourrait atteindre 3,1 milliards d'euros à l'horizon 2030. Écoutez la réaction, les commentaires de François-Xavier Selleret. C'est le directeur général de l'Agirc Arrco. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Premier objectif des partenaires sociaux, c'est de garantir le paiement des retraites à chaque génération sans peser sur les générations futures. Ces résultats, ils sont aussi positifs pour les entreprises de notre pays, pour notre économie, pour notre souveraineté économique, parce que ces réserves, les 78 milliards dont vous venez de parler...
C'est les cotisations.
C'est des cotisations, mais elles ne dorment pas sur un compte en banque, elles ne dorment pas sur un livret A, elles sont réinvesties en actions, en obligations, des entreprises françaises et européennes, selon des critères socialement responsables, et elles sont au service de la transition. Puis enfin, ces résultats, ils sont positifs aussi pour notre pays. Parce que l'Agirc Arrco, il est géré de manière autonome par les partenaires sociaux, par les représentants des entreprises et des salariés, mais comme c'est un régime obligatoire de protection sociale, les excédents de l'Agirc Arrco viennent en déduction des déficits publics.
Est-ce que le gouvernement a raison de vouloir faire les poches du régime de retraite complémentaire, Eli Cohen?
Je crois que c'est une très mauvaise idée pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'un organe paritaire, c'est qu'il s'agit de cotisations prélevées sur les salariés du privé et que, ces retraites complémentaires sont cogérées et plutôt bien cogérées, puisque le système a fonctionné avec le temps, des réserves ont été accumulées. Donc théoriquement, tout le monde devrait s'en satisfaire. Bon. Alors, là-dessus, le gouvernement dit qu'il veut ponctionner. Mais de quel droit ? On a l'impression que les prélèvements sociaux, que ce soit des cotisations, que ce soit des impôts, sont une espèce de masse indistincte dans laquelle l'État se réserve le droit de venir prélever quand il le souhaite, comme il le souhaite, en fonction de considérations qu'il ne partage avec personne.
Surtout que l'Agirc Arrco est alimenté uniquement par les cotisations,
des salariés. Ouais. Et puis troisièmement, si le régime Agirc Arrco est très excédentaire, ça veut dire peut-être qu'il a trop prélevé et qu'il pourrait restituer une partie de ces prélèvements aux cotisants. Donc qu'est-ce que c'est que ce système où il y aurait comme ça des cagnottes imaginaires dans lesquelles l'État viendrait prélever en disant, bah, écoutez, c'est comme ça, et si vous n'êtes pas d'accord pour que je prélève volontairement, je vais vous inventer un nouvel impôt qui permettra que j'aboutisse au même résultat. Non, vraiment, c'est des manières très singulières, et je crois que derrière tout ça se pose vraiment la question des principes de financement de la protection sociale et d'un équilibre durable des prélèvements et des cotisations. Je crois qu'on va y revenir pendant cette émission, mais c'est ça que ça révèle.
Laurent Vronsky, au-delà des chiffres, est-ce que ce n'est pas un très mauvais signal envoyé aux organismes qui sont plutôt bien gérés, qui ont été prudents, rigoureux ?
Alors, je pense qu'il s'agit de deux mauvais signaux. Le premier mauvais signal, imaginez, vous êtes invité dans un magnifique château, vous rentrez dans le parc, tout est beau, c'est magnifique, puis vous pénétrez dans le salon, puis là, il fait très froid. Et là, vous avez le maître de maison, il prend une des chaises Louis XV, il la casse pour alimenter le feu. Donc, ça vous envoie quand même un signal un peu particulier. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et la deuxième chose, c'est que ça sent aussi la spoliation. C'est-à-dire que finalement, ça montre que l'État a tous les droits et que si besoin est, ben, je dirais, on peut ponctionner de l'argent à gauche et à droite. Et en passant, on va bien évidemment pénaliser les bons élèves de la classe. Parce que quand on parle de l'AGIR Carco, c'est le bon élève de la classe. Mais ça, si vous voulez, en clair, on ne parle pas de l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Parce que l'éléphant qui est au milieu de la pièce, c'est précisément les comptes de l'État qui sont très très mal gérés. Donc avant de faire les poches aux uns et aux autres, peut-être qu'il faudrait s'attaquer au problème et réduire le train de vie et le budget de l'État. Et si on réduit le train de vie et le budget de l'État, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour savoir qu'on n'aura pas besoin d'avoir une fiscalité pénalisante.
Emmanuel Combes.
Je rebondis sur un point de Laurent qui est vraiment intéressant du point de vue de la théorie économique. En fait, en étant discrétionnaire, puisque l'État finalement va prendre une décision de manière surprenante, vous faites un coup à court terme, mais en réalité, vous perdez toute crédibilité. Parce que mettez-vous à la place des partenaires sociaux à long terme. Pourquoi être vertueux ? Puisque vous savez que si vous êtes vertueux, de toute façon, vous avez toujours le risque. Donc, on trouve toujours ce même problème en politique économique. Faire un coup, il y a un gain à court terme, mais pour quelle crédibilité à long terme ?
Laurent Vronsky, si l'État commence à faire les poches de certains organismes, est-ce que les épargnants doivent s'inquiéter ? Il est prévu par les textes qu'en cas de situation difficile, l'État puisse aller puiser dans l'épargne des Français.
Mais justement, c'est le deuxième signal qui, à mon avis, est extrêmement négatif. Ça veut dire que personne n'est à l'abri, et rien n'est à l'abri. Et que si l'État estime... Enfin, en clair, c'est de la réquisition, hein. Alors en temps de guerre, on peut le comprendre. Mais on imagine très bien qu'on puisse créer toutes sortes d'impôts, que ça soit sur les biens immobiliers, sur les comptes en banque qui ont un montant plus de X. Je veux dire que la fin justifie les moyens. C'est exactement ce que disait monsieur. C'est-à-dire que ça envoie un signal extrêmement pénalisant pour des gens qui doivent prendre des risques à moyen et à long terme.
Élie Cohen, quel est le risque pour les retraites complémentaires, contrairement au régime de base? L'AGIR Carco ne fonctionne pas à prestations définies, c'est-à-dire que on cumule des points et la valeur du point au moment de la retraite va définir le montant de votre pension. Est-ce qu'il y a un risque sur la valeur du point ?
Non, je ne crois pas du tout qu'il y ait un risque sur la valeur du point. Je ne crois pas du tout que ça mette en cause les retraites futures, etc. Je crois plutôt que c'est un mauvais principe qui s'installe dans la durée. Moi, je suis partisan d'une distinction très nette entre ce qui relève du contributif et ce qui relève du redistributif. Nous cotisons et nos cotisations donnent droit à un certain nombre de droits. Et finalement, les retraites complémentaires, c'est parfaitement le modèle. Et par contre, à côté de ça, il est parfaitement légitime que l'État fasse la redistribution, qu'il corrige les petites retraites, qu'il vienne au secours de telle ou telle prestation lorsque elle ne peut pas être servie correctement. Là, il y a une obligation générale et une responsabilité générale de l'État. Mais cette façon de mélanger les genres en permanence, le contributif et le redistributif, le prélèvement discrétionnaire et la taxe inattendue, je crois vraiment que ça ne va pas. Et je crois qu'on est arrivé vraiment au point, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est pas que l'État est mal géré, je crois qu'on a un vrai problème d'équilibre durable de notre système social. C'est-à-dire que nous avons un système social très généreux, très redistributif, qui croît plus vite que le PIB, et on voit en particulier que nos gains de productivité faiblissent, que notre croissance faiblit. Je vois par exemple que les dépenses d'assurance maladie progressent nettement plus vite que le PIB. Donc il va falloir à un moment qu'on dise, bon, bah, ok, il faut accepter que les dépenses sociales évoluent plus vite que le PIB, mais dans ce cas, il faut mettre en face un financement durable de cette protection sociale ainsi redéfinie. Je crois qu'on n'y échappera pas. On va évoquer les différentes mesures et différents types d'économies qui sont prévues par l'État. Mais je crois que ce n'est pas à la hauteur du problème. Ce qui est à la hauteur du problème, c'est de repenser durablement l'équilibre de notre système social.
Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Ponctionner les réserves de l'AGIR Carco et du vol qualifié, ça devrait se terminer devant les tribunaux, nous dit Robert. Merci de ne plus parler de ponction, mais de vol de raquettes, d'État proxénète, nous dit disent les amis européens. Dans quelques semaines, vous le savez, les agences de notation vont se pencher sur le cas de la France. Fitch et Moody's le 26 avril, S&P le 31 mai. À l'approche de ces deux dates, le gouvernement a multiplié les annonces et les pistes d'économie. Assurance chômage, jours de carence. Ce week-end, Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, parlait d'un concours Lépine des mesures d'économie. Est-ce que vous avez le sentiment, Laurent Vronsky, qu'il y a une sorte de panique à l'approche de ces deux dates?
Écoutez, je trouve ça assez étonnant. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'impression que certaines personnes découvrent la situation de la France 15 jours avant. Alors que ça fait, enfin, je mets maintenant ma casquette syndicale Croissance Plus, je veux dire que ça fait quoi, 10-15 ans qu'on alerte sur les dérives budgétaires. Donc, je ne suis pas d'accord avec monsieur. Moi, je pense que l'État est clairement mal géré. On en parle. On a vécu une anomalie économique qui est l'ère des taux d'intérêt négatifs. On a expliqué que le jour où ça allait redevenir positif, on allait avoir le service de la dette, que ça serait insoutenable. On avait l'impression vraiment, je dirais, de prêcher dans le désert. Et là, maintenant, c'est la panique à bord. Et on a l'impression qu'on doit, coûte que coûte, trouver les économies. Alors, on est en train de casser les meubles de la famille et d'ouvrir tous les tiroirs. Bon. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez désagréable. Et en plus, bien évidemment, quand on fait ça dans la précipitation, généralement, on fait des grosses bêtises. La mauvaise nouvelle, c'est que pour pouvoir avoir un train de vie qui soit supportable par la fiscalité, je rappelle quand même qu'on a près de 60% de la richesse produite qui part dans la dépense publique. Hein. Donc si tout le monde pense qu'on vit dans un paradis avec des services publics qui sont super efficaces, qui fonctionnent très bien, mais globalement ça marche pas bien. Bon. Donc je pense qu'on a le temps court, c'est celui que vous avez cité, et on a le temps moyen et le temps long, c'est en clair les politiques budgétaires et autres, et là, force est de constater que depuis 30 ans, il n'y a pas un gouvernement qui peut en clair se targuer d'avoir durablement une politique budgétaire qui soit compétitive et qui soit compatible avec notre état d'endettement.
Emmanuel Combes me faisait un signe en me disant, ça fait 50 ans qu'on est dans le rouge.
Oui, absolument. Ça fait 50 ans. Alors, je promets de ne pas faire un long tunnel pour favoriser le débat entre nous, mais il se trouve que je suis en train de travailler sur ce sujet. Je vais juste dire un mot qui rejoint ce que dit Laurent sur ce qu'on appelle l'économie politique de la dette publique. En clair, je vais être très pessimiste, hein, je suis désolé, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Et oui, on va faire du bricolage, mais fondamentalement, l'homme politique, en tout cas en démocratie, et vive la démocratie, hein, je ne suis pas en train de remettre en cause ce système, il est un peu condamné à faire du déficit et de la dette.
Pour on au moins appelle ça raisons. La relance budgétaire, généralement.
Non, c'est de l'économie politique. Alors d'abord, parce qu'il y a des élections, et c'est très simple, il y a des élections, donc il y a de l'alternance politique, ce qui fait qu'avant les élections, en général, quand vous regardez, vous laissez Covid de côté, vous laissez la crise de 2008, où c'est tout à fait normal qu'on ait des sauts. Il faut que l'État vienne au secours de l'économie défaillante. Mais vous apercevez qu'en période d'élection, mécaniquement, de toute façon, vous faites de la dépense publique. Et ce d'autant plus que vous dites, avec un peu de malchance, je ne vais pas gagner l'élection. Et donc, ça va contraindre mon successeur. Ah bah oui, parce que si vous faites de la dépense publique, votre successeur sera peut-être contraint, lui, à rembourser la dette, ou en tout cas, augmenter les impôts. Vous avez des histoires de coalition. Il y a eu beaucoup de coalitions politiques en France. Or, les études d'économie politique, il y a une énorme littérature anglo-saxonne, très alimentée par les Italiens d'ailleurs, Alesina, Perotti, etc., qui vous montre que plus vous avez de gouvernements de coalition, plus vous avez tendance à procrastiner. Dans une coalition, personne n'est d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, le meilleur moyen, c'est de s'endetter. Et vous cumulez tout ça, et vous apercevez qu'à la fin, finalement, la seule solution, c'est de s'endetter. Et d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle en économie une guerre d'usure. Une guerre d'usure, c'est-à-dire le premier qui cédera, le premier qui fera l'ajustement budgétaire, par définition, c'est lui qui sera désigné coupable. Donc j'ai envie de dire, tout ça est inéluctable. Et je ne dis pas ça avec joie, mais moi, je crois beaucoup à l'idée qu'on va continuer. Alors on va bricoler, il faut toujours bricoler, hein, notamment pour éviter la dégradation. Mais à la fin des fins, ça sera une crise de la dette. Ça sera une crise de la dette parce que, de toute façon, vous n'avez pas de force de rappel. Il y a deux grandes forces de rappel. L'Europe, très honnêtement, ça ne marche pas. La France a toujours réussi à passer à travers les filets. Ou alors, rendre indépendante la politique budgétaire. Mais qui songe à rendre indépendante une politique budgétaire? Alors, on peut éventuellement renforcer les pouvoirs du Haut Conseil pour les finances publiques, mais ça restera toujours du consultatif. Donc, moi, je ne crois pas du tout une seconde. Hein, je suis désolé, je ne le dis pas ça avec joie. Hein, mais je crois qu'on est condamné à aller vers une dynamique de dette. Et un jour, ça se réglera par les marchés. Et d'ailleurs, tout le monde sera content. Les hommes politiques désigneront les méchants marchés. Et ce, d'autant plus que 50% à peu près de la dette publique française est détenue par des noms européens. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je rejoins Laurence au sens où tout ça, ça ressemble quand même beaucoup à du bricolage. On feint de découvrir des choses qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, qu'on retrouve en Italie d'ailleurs, hein, intéressant, France-Italie, cette espèce de... La dette est en réalité le meilleur moyen de ne jamais faire des choix parce qu'on a un système politique assez polarisé en France, hein, assez polarisé avec beaucoup de coalitions où on se dit de toute façon les gens de gauche veulent plutôt de la dépense publique, les gens de droite plutôt des baisses d'impôts et l'homme politique lui veut satisfaire l'électeur médian, c'est-à-dire il promet à la fois des baisses d'impôts et des hausses de dépenses publiques. Donc à la fin des fins, c'est pas possible. Par contre, point important, en tant qu'économiste, il est impossible de savoir quand est-ce que ça explosera. Je ne suis pas en train de vous dire à la Agnès Verdier-Molinier, l'État est en faillite. Ça peut durer encore 10 ans, 20 ans. La France emprunte encore aujourd'hui à des taux relativement bas. Pour combien de temps? J'en sais rien. Mais je ne vois pas d'autre issue qu'un jour une crise de la dette, parce que de toute façon, l'homme politique n'a aucun intérêt. Et quand j'entends Camille Landais dire il faudrait faire un programme de réduction sur 10 ans, mais l'horizon politique d'un décideur, ce n'est pas 10 ans.
Eli Cohen, est-ce que le monde est en train de danser sur un volcan? Là, on vient de parler de la France, mais aux États-Unis, la dette publique augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours. C'est insoutenable.
Alors, la situation des États-Unis est radicalement différente de ce qui se passe en France.
Parce qu'ils ont le dollar.
Et ça correspond au modèle qui vient d'être décrit. Aux États-Unis, vous avez une société et une classe politique qui est en guerre permanente. Et pour un esprit français, se dire que tous les 3 ou 6 mois à peu près, le gouvernement américain risque d'être en cessation de paiement et que les fonctionnaires risquent de ne plus être payés parce que l'autorisation d'augmentation de la dette n'est pas votée, à cause d'un conflit politique larvé et de la volonté des républicains d'interdire aux démocrates de gouverner, même lorsqu'ils ont un président qui est élu. Ça, c'est une situation qu'on a du mal à imaginer. Et pourtant, c'est la vérité. On échappe à peu près tous les 3 mois au grand shutdown, c'est-à-dire à la grande fermeture de l'appareil d'État.
Mais ça n'empêche pas les Américains, excusez-moi, d'augmenter leur dette de manière exponentielle.
Oui, mais parce que c'est reconduit périodiquement. Parce que si vous voulez, au bord du précipice...
Pourquoi la menace de shutdown ne fonctionne pas?
Au bord du précipice, on se dit, non, mais c'est pas possible. La grande nation américaine ne va pas faire défaut sur sa dette, quand même, vous imaginez? Donc, puisque la dette américaine, c'est l'actif le plus valorisé dans la planète. Donc, vous imaginez, vous allez mettre en difficulté les Chinois, les Saoudiens, etc. C'est pas possible. Et puis, les ménages et les épargnants et les fonds de pension de la planète entière qui détiennent de la dette américaine. Donc ça, c'est vraiment la situation américaine. La situation européenne, et particulièrement la situation de la France, est radicalement différente. Moi, je reviens quand même à mon point. Il faut regarder quels sont les fondamentaux des déficits et de la dette française. Hein ? D'où viennent ces déficits et ces dettes ? Est-ce que c'est la marche continue de l'État avec une espèce de croissance comme ça, incrémentale ? Non, quand on regarde les chiffres, il y a un tiers du PIB qui va à la dépense sociale, et dans ce tiers du PIB, eh bien, on fait plus, nous, Français, en matière de retraite qu'à peu près tout le monde, on fait un peu plus en matière de santé qu'à peu près tout le monde. Par contre, nos dépenses d'éducation ne sont pas plus élevées que celles de nos voisins, rapportées au PIB, nos dépenses de justice sont plutôt inférieures. Donc c'est ça le vrai problème.
Est-ce qu'elle est efficace, notre dépense?
Non, enfin, justement,
notre débat.
On est d'accord.
Vous allez à l'hôpital, on dépense beaucoup d'argent dans la santé
c'est
en France.
Alors,
vous
après...
allez à l'hôpital, il y a plus d'administratifs que de soignants.
Alors voilà, une fois qu'on a dit que le problème, c'était les grandes masses et notamment les masses dévolues à la protection sociale. Alors, est-ce que la protection sociale est bien gérée? Alors là, c'est là qu'on découvre, ou l'éducation, c'est là qu'on découvre qu'il y a un taux d'encadrement administratif aussi bien dans la santé que dans l'éducation, qui est anormalement élevé par rapport à nos voisins. Et c'est le mérite des benchmarks qui sont faits périodiquement entre hôpitaux français et hôpitaux allemands, que de découvrir justement ce coût de la suradministration. Mais alors, ayons bien ces idées en tête, gérons la question des grandes masses et trouvons un équilibre durable pour les grandes masses et après, essayons de mieux gérer le détail de cet argent utilisé.
Laurent, vous êtes un industriel. Est-ce que vous pourriez gérer votre entreprise de cette manière avec plus d'administratif que de productif?
Écoutez, si j'avais géré si on avait géré notre entreprise, on serait plus là depuis 10 fois. Ouais. Justement, j'ai bien parlé d'efficacité de la dépense publique. Alors, il se trouve que sur les piliers régaliens de l'État, j'ai une modèle cette expérience, puisque nous, grâce à Espérance Banlieue, on met en place des écoles. Donc nous avons des meilleurs résultats que la moyenne nationale là, pour un budget qui est inférieur. Et je veux dire, je n'ai rien inventé, mais je veux dire que l'éducation nationale est un... Enfin, c'est pas moi qui ai utilisé ce terme-là, est un pachyderme irréformable. Je veux dire, et vous avez aujourd'hui beaucoup de secteurs qui sont en train de vaciller, que ça soit l'hôpital, la sécurité, je dirais la justice, et pour lesquels on dépense beaucoup d'argent. Et certains pensent qu'il faut verser encore plus d'argent sur un système inefficace. Mais si vous avez une terre qui est aride et qui n'absorbe pas l'eau, vous pouvez verser 3 fois plus d'eau, ça va pas faire pousser plus de plantes. Donc, la réforme, et c'est exactement ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a le temps politique, il y a le temps des hommes d'État. Et on est entouré d'hommes politiques et de peu d'hommes d'État. L'homme d'État, je veux dire, il gère le temps moyen et le temps long. Et il faut réformer le système, la manière dont l'argent est utilisé, parce qu'il est parfaitement inefficace.
Emmanuel.
Je rebondis sur ce que vous disiez, Stéphane, au niveau de l'éducation nationale, et ça va aussi pour l'hôpital. Pardon, quand vous embauchez des personnes, ils votent. Par contre, investir sur des enfants qui ne votent pas encore, c'est-à-dire les générations futures, la recherche et développement. On retrouve cet horizon temporel. Je veux dire, si vous êtes un homme politique rationnel, il vaut mieux embaucher des fonctionnaires de l'éducation nationale.
C'est plus payant d'un point de vue politique.
Pour que des enfants dans 20 ans. Ben, c'est dur hein, à entendre ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y a un problème d'horizon temporel. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est pas seulement qu'on dépense beaucoup. Moi, j'ai rien contre la dépense publique. C'est un, l'efficacité, et deux, pour qui? Est-ce qu'on prépare vraiment l'avenir? Est-ce qu'on prépare la transition climatique? Est-ce qu'on prépare les décrocheurs scolaires? Vous voyez, mais il y a un biais court-termiste nécessaire. Et c'est en ce sens que j'ai beaucoup de mal avec l'argument, je l'entends, hein, de mes collègues économistes qui disent, voilà, il faut faire un programme budgétaire sur 10 ans, on va réduire de chaque année de 15 milliards le déficit, comme ça on aura un déficit primaire qui sera nul dans 10 ans. Mais quel homme politique a comme horizon temporel 10 ans? Déjà, c'est pas l'horizon d'une élection. Hein. Déjà, une élection, c'est 7 ans. Donc vous voyez, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de naïveté à penser que l'homme politique raisonne comme l'économiste. Malheureusement, en démocratie, et vive la démocratie, quand on est très polarisé, on privilégie le court terme. Et donc la dette, c'est pas un problème la dette pour l'homme politique, c'est la solution. Sauf que la solution, il y a un moment où les marchés vont nous faire payer. Il y a un papier qui vient de sortir très intéressant dans le Journal of Banking and Finance qui montre que quand un pays est dégradé, le décideur politique en place le paye en fait très cher, il le paye au nom de ses prédécesseurs. Donc il y a quand même un effet électoral. Quand je dis, il y a un effet sur les... Alors c'est intéressant quand on regarde pourquoi les électeurs sont mécontents. Ils sont mécontents notamment parce qu'ils anticipent des hausses d'impôts futures.
Alors, des baisses de patrimoine. Merci pour la transition. Juste après la pause, on parlera des hausses d'impôts. Est-ce qu'on peut vraiment faire l'économie des hausses? Et puis, on parlera du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et puis, je voulais annoncer dans le sommaire, carte blanche, vous avez chacun choisi un sujet que vous voulez défendre. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bon, Nicolas Dose, on lui souhaite quand même de bonnes vacances. Je le remplace pendant 15 jours. On espère que d'ici là, on aura un petit jingle à mon nom. Stéphane Pedrazzi, je suis ravi de vous retrouver. On va maintenant parler des hausses d'impôts compte tenu de la situation économique dont on vient de parler. Est-ce que la France va pouvoir faire l'économie des hausses d'impôts? Le président Macron s'y est engagé à ne pas augmenter les impôts. Pour autant, est-ce que c'est tenable? C'est absurde, estime Camille Landais, le président délégué du Conseil d'analyse économique. Absurde compte tenu de la situation économique du pays. Élie Cohen.
Bah, sur le principe, Camille Landais a raison. Si vous raisonnez en termes conjoncturels, lorsqu'une économie ralentit, lorsque la croissance est faible, lorsque les gains de productivité sont faibles, la solution, c'est pas de couper dans la dépense.
On peut faire les deux.
C'est au contraire d'essayer, comme ça a été dit tout à l'heure, d'investir dans la recherche, l'innovation, la transition énergétique. C'est d'investir et donc de faire de la dépense. C'est pas du tout de dire on arrête tout et on va augmenter fortement les impôts. Alors ceci étant, bien entendu qu'il faut pas exclure l'hypothèse d'augmentation des impôts, mais augmenter les impôts, pourquoi faire? C'est encore une fois la question. Est-ce qu'on augmente les impôts pour couvrir comme ça les dépenses et les dérapages courants, ou est-ce qu'on augmente les impôts parce qu'on a une vision de la direction dans laquelle on veut aller et on veut justement corriger les déséquilibres structurels qu'on a détecté. Si on dit, ben oui, on va faire un plan volontariste pour la transition énergétique, pour l'investissement dans la recherche, pour les investissements dans les infrastructures, etc., et ben ça nécessite une augmentation des impôts. Si on dit, par exemple, oui, eh bien on prend acte du fait que durablement, les dépenses de santé vont augmenter plus vite que le PIB, et donc il faut trouver un financement complémentaire pour les dépenses de santé, par exemple par une augmentation de la TVA. Oui, pourquoi pas? Mais encore une fois, augmenter les impôts comme ça en l'air, parce qu'on découvre un trou béant et que ce trou béant nous donne le vertige, non.
Ce que dit Camille Landais, c'est qu'il faudrait augmenter les impôts pour les plus riches. Emmanuel Combes.
Moi, je rejoins Élie, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas de cohérence. En fait, on cherche des solutions avant de poser le problème. posons le problème, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les orientations, et une fois qu'on a défini les orientations, on met en regard les dépenses et les recettes. Et on, mais vous voyez, on a vraiment l'impression d'une politique de gribouille. Et puis, à nouveau, cette histoire d'augmenter les impôts aujourd'hui, sans avoir prévenu, sans avoir anticipé, il y a des effets à long terme. Enfin, moi, je crois beaucoup à la crédibilité de la politique économique. Il faut annoncer ce que l'on fait, dire ce que l'on fait, hein, pour que les anticipations des entrepreneurs, mais pas que les entrepreneurs, des ménages aussi. Le ménage, il épargne. Donc, s'il épargne en se disant, en réalité, j'épargne, mais c'est pour être demain plus taxé, qu'il y ait de la visibilité. Et il y a de la visibilité que s'il y a, en effet, comme le dit Élie, bah, des programmes sur 5 ans, 10 ans, mais j'y crois pas, hein. On veut investir dans tel domaine. C'est des choses finalement assez simples. Assez simples. Posons le problème et ensuite regardons. Donc, il ne faut pas exclure des hausses d'impôts, mais il ne faut pas non plus se dire par principe il faut augmenter les impôts. En réalité, je n'ai pas d'opinion. Regardons ce que l'on veut faire. Et puis surtout, réfléchissons à l'efficacité de la dépense publique. Il n'y a pas d'évaluation des politiques publiques en France. On dépense et puis ensuite on reconduit la dépense. Et
on a la Cour des comptes qui crie dans le désert.
Oui, mais c'est indicatif.
Ça a le mérite d'exister.
C'est bien au moins de dire les choses.
Quand on parle de visibilité sur le plan fiscal, le gouvernement avait annoncé la suppression progressive de la CVAE. Je sais que ce sujet vous tient à cœur, Laurent Vronsky. On a entendu ce week-end le patronat s'inquiéter d'un possible énième report de la suppression de la CVAE.
Je pense que dans le contexte qu'on vient de décrire, je pense qu'effectivement c'est tout à fait légitime de s'inquiéter.
Mais la CVAE... Pour l'instant, la perspective, c'est la suppression 2027.
Mais ce qu'il faut voir, c'est que la CVAE, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement faire des frappes chirurgicales au niveau fiscal. Ce qu'il faut simplement, c'est arrêter avec la politique fiscale quantique. C'est-à-dire que quand on sait où on est, on ne sait pas où on va. Et quand on sait où on va, on ne sait pas où on est, quoi. Et je veux dire que la CVAE, c'est un des éléments. D'ailleurs, ce qui se passe dans certaines communes, c'est que effectivement, comme la CVAE a baissé, alors on vous fait augmenter toutes les taxes périphériques. Le problème de fond, c'est le problème qu'on vient de décrire. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe pavlovien en France. Quand il pleut parce que votre toit, il a un trou, plutôt que de réparer le toit, on va prendre un seau qui est deux fois plus gros. Bon, donc il faut arrêter avec ce réflexe pavlovien de penser que la dépense publique est parfaitement utilisée, qu'elle est parfaitement efficace, et que pour résoudre les problèmes, il faut arroser avec plus d'impôts. C'est faux. Et c'est exactement ce que dit Emmanuel. Et dans pas mal de... Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que beaucoup de nos compatriotes, utilisateurs des services publics, se rendent compte que ça ne marche pas. Donc, avant de dire on va augmenter les impôts, on va déjà se poser la question de comment on va les utiliser. Et là, croyez-moi, il va falloir beaucoup plus de temps que les 15 jours.
Avant de passer à notre carte blanche, on va dire quelques mots du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il a été rejeté il y a quelques jours par les sénateurs. Est-ce que la France peut s'y opposer, vu que c'est un engagement européen, Emmanuel Combes?
Je pense que ça peut mal se terminer. Mais ce que je trouve quand même très triste dans notre pays, c'est que vous regardez le paysage politique, que ce soit de la gauche à la droite, vous n'avez plus une seule personne pour défendre, entre guillemets, un libre-échange quand même très encadré.
Oui, on va le préciser, le Sénat, c'est quand même pas le royaume des gauchistes.
Non, mais ça marque quand même un mouvement qu'on présageait, hein. C'est-à-dire que même la droite, qui pourrait éventuellement défendre le libre-échange, a abandonné cette cause-là. Je trouve ça un peu triste. Et ce d'autant plus que le CETA, quand on regarde, moi j'ai regardé, il y a des évaluations quand même. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même regarder les choses. On peut dire ce qu'on veut. Il y a une évaluation de la DG Trésor. C'est pas un think tank ultralibéral. Et ils vous disent, bah écoutez, quand on fait le bilan, c'est pas si mal que ça pour la France, hein, j'entends. Hein. D'abord, on a un excédent commercial avec le Canada. Comparaison avec le Mercosur n'est pas raison, c'est d'autres problématiques, le Mercosur. Et surtout, mais c'est ça que je trouve très intéressant, c'est un peu mon dada, hein, la France, elle a un point fort dont on ne parle jamais, c'est ces excellences. On exporte de plus en plus de fromage, plus 60% d'exportation de fromage au Canada.
Mais pourtant, les agriculteurs sont vent debout.
Pas les agriculteurs, certains agriculteurs.
Les éleveurs.
Le bœuf, la volaille. Et d'ailleurs, il y a des quotas prévus. Mais vous regardez le fromage, plus 60%, on parle des AOP. On devrait être super fiers. Le vin français, plus 24%. Et quand on regarde au final, le solde commercial avec le Canada s'est amélioré. J'ai envie de dire, je ne vous dis pas que tout est parfait. De toute façon, dans un accord commercial, c'est le principe même. Il y a des gagnants et des perdants. Mais ce que je trouve dommage, c'est cette espèce de vision un peu simpliste où on met tout dans le même panier en disant bon, CETA, Mercosur. Non, ça semble être plutôt un bon accord. Et moi, je trouve ça un peu désespérant que dans un pays comme la France, il n'y a pas une seule voix, il y a peut-être un peu David Lisnard, qui vous dit parfois le libre-échange, c'est pas si mal que ça. Pas si mal que ça pour nos exportateurs. Je parle même pas en termes de pouvoir d'achat pour le consommateur. Je pense que les viticulteurs sont plutôt contents. Et les producteurs de fromage sont plutôt contents. Donc quand on dit de l'agriculture, l'agriculture, ça n'existe pas. C'est plusieurs intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes. Attention à cette espèce de bashing. Je trouve ça quand même très désolant de voir une droite qui est devenue anti-libre-échange. Alors que elle pourrait porter cette voie-là, puisque la gauche l'a abandonnée. Je rappelle quand même que la gauche, au départ, était libre-échangiste. Je le dis souvent, Jean Jaurès était pour le libre-échange.
Laurent, vous êtes un exportateur. Vous êtes favorable à cet accord.
Je pense, si vous voulez, dans la lignée de ce que vient de dire Emmanuel, je veux dire que les industries qui vont survivre en France et qui vont se développer sont des industries à forte valeur ajoutée. Et donc, si c'est les produits à très forte valeur ajoutée, clairement, c'est les produits aussi qui vont être exportés, puisqu'on va, on va nous les demander, on va nous les envier. Donc, pour pouvoir exporter ces produits, il faut qu'il y ait des accords de libre-échange. Je veux dire que Hervor exporte 90% de sa production hors de la zone euro. Donc demain, si on fait la muraille de Chine autour de la France et de l'Europe, moi, c'est pas compliqué. On tire le rideau. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui à forte valeur ajoutée. Le luxe est l'exemple que nous connaissons tous. Les fromages et le vin, c'est pas un hasard. C'est parce que la France a un terroir unique. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Et pour se battre, on doit avoir l'autoroute qui est dégagée.
Élie Cohen, vous
êtes communiste. Je ne suis pas surpris du vote du Sénat et je ne serais pas surpris que ce soit confirmé à l'Assemblée nationale. La droite, depuis longtemps, n'est pas libre-échangiste. La droite est protectionniste. Alors, il y a eu, si vous voulez, le miracle européen au nom de l'intégration européenne et du fait qu'on avait délégué à l'Europe notre pouvoir de négociation commerciale, toute une série d'accords commerciaux sont passés, je dirais, comme ça, en douce. Mais là, avec le regain de la question agricole, avec les manifestations que nous avons connues, les protestations agricoles ont eu un nouvel écho et ils ont trouvé très naturellement, je dirais, des porte-voix à gauche et à droite, d'où la situation actuelle.
Là, c'est du clientélisme, alors, politique.
Écoutez, il y a une situation qui fait que, comme on n'a jamais expliqué les bénéfices du libre-échange régulé et pour le consommateur et pour nos exportateurs, avec quand même, il faut rappeler que l'Europe est structurellement excédentaire en matière commerciale.
Absolument.
Donc je veux dire, ça veut dire que globalement le système nous profite. Et est-ce que vous entendez ça quotidiennement répété, que le système nous profite?
Très rapide réaction d'Emmanuel Combes.
Je voulais compléter par rapport à Élie. Je suis d'accord avec Élie sur le fait que la droite traditionnellement est protectionniste, mais justement comme la gauche a abandonné le libre-échange, faut pas oublier que le libre-échange au départ est plutôt une valeur de gauche, quand vous relisez Jaurès, on pourrait se dire que par opposition, parce que l'opposition, c'est quand même dire un peu le contraire de son camp adverse, il y a une partie de la droite qui se dit, tiens, moi, je vais prendre le contre-pied. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'unanimité de LFI à LR pour nous dire quand même le CETA, quelle horreur, et puis faire un gros amalgame avec le Mercosur, qui est une toute autre problématique.
Petit message sur X de Nathalie Janson qui dit « Merci Emmanuel Combes pour ton analyse politique de la dépense publique. En France, on oublie trop souvent la théorie des choix publics. » Voilà, le message est passé. On va passer à notre carte blanche. Vous avez chacun choisi un sujet que vous voulez défendre à l'antenne. On va d'abord parler d'industrie. Élie Cohen, j'étais la semaine dernière au salon Global Industrie. Il y avait une véritable effervescence. Tout le monde était très fier de l'industrie. Vous voulez parler de Thierry Breton et la réindustrialisation de l'Europe.
Oui, s'il y a un thème qu'on était peu sûr de trouver au niveau européen, c'est le thème de la réindustrialisation. Et pire encore, le terme de la politique industrielle. Au niveau européen, le terme de politique industrielle a souvent été considéré comme obscène. Et donc on a souvent, même dans le traité de Maastricht, fait un chapitre sur la politique industrielle et tous les commissaires européens venaient après expliquer qu'il fallait surtout pas faire ça, notamment le commissaire à la concurrence qui disait que l'objectif européen n'était absolument pas de fabriquer des champions européens, qu'au contraire il fallait désintégrer les monopoles nationaux verticalement intégrés. Donc il y avait un climat d'hostilité sourde à la politique industrielle. Et puis la crise du Covid est passée par là, et puis Trump est passé par là, et puis la politique stratégique de la Chine est passée par là, et on a découvert les phénomènes de pénurie au niveau européen, et l'idée de sécurité d'approvisionnement a commencé à gagner du terrain. Puis il y a eu l'épisode du Covid où Thierry Breton a mis en place une stratégie de licence pour fabriquer des vaccins pour faire face aux besoins. Et du coup, une méthode a été progressivement trouvée qui consiste à dire, soyons très pragmatiques, voyons au niveau européen quels sont les trous dans nos différentes filières industrielles. Voyons les domaines où nous dépendons excessivement d'un ou deux fournisseurs au niveau mondial. Par exemple, les fameux principes principes actifs du paracétamol qui sont fabriqués presque exclusivement en Inde et en Chine, et essayons à partir de là une politique de réindustrialisation, alors qui passe par un certain nombre de programmes. Ce sont les fameux PIEC, les programmes d'intérêt économique européen général, où qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lève un peu les contraintes de concurrence pour permettre que des alliances puissent se former dans le domaine des batteries, dans le domaine des composants, dans le domaine des électrolyseurs, pour, à l'occasion de nouveaux développements industriels, il ne s'agit pas de rapatrier des usines qui existent à l'étranger, il s'agit, à l'occasion de nouveaux développements, suite à une innovation, de faire en sorte qu'on puisse localiser sur le territoire européen un certain nombre d'unités de production. Donc j'ai cité un certain nombre de secteurs.
Mais on pourrait citer Verkor, par exemple, qui va fabriquer des batteries dans le nord de la France.
Exactement, c'est le cas. Et donc on autorise maintenant que les États apportent des subventions lorsqu'il y a des transferts de technologies, notamment dans les composants électroniques avec Intel. Et là, on vient de faire un nouveau pas en disant il va falloir qu'on se crée une industrie d'armement solide en Europe parce qu'on en a besoin à terme. On va mettre en place des fonds. Faisons en sorte que ces fonds, que la commande publique nourrisse un certain nombre de développements industriels sur le sol européen en matière de la défense. Et c'est toute la logique de Thierry Breton actuellement qui consiste à dire eh ben oui, il y a un impératif de défense. Oui, il faut augmenter les dépenses en matière d'armement. Oui, ces besoins peuvent servir l'Europe et pas nécessairement alimenter des commandes aux États-Unis. Et faisons en sorte que ça profite au tissu industriel européen.
Sur le papier, on voit que c'est quand même compliqué. Le ministre de la Défense a encore mis un coup de pression ce week-end aux industriels parce que les industries de la défense ont du mal à suivre.
Ah ben oui, parce que si vous voulez, 20 ans de dividendes de la paix ont fait qu'on a désarmé, qu'on a une armée bonsaï et qu'on a un système de production qui n'est pas capable de fournir les obus demandés. Il va falloir réinvestir. On a un industriel. Il va falloir réinvestir dans des chaînes de production. Il va falloir parfois construire de nouvelles usines. Et il va falloir retrouver des compétences que nous avons perdues.
Très rapide réaction sur ce sujet.
Oui, moi je vais compléter les propos de Monsieur Cohen. Je souhaite vraiment que ça soit la fin de l'angélisme, parce que si on prend la première puissance mondiale, qui est les États-Unis, c'est absolument pas le royaume du libre-échange et du libéralisme à tout craint. Je veux dire que l'État américain est très interventionniste. Il aide énormément ses entreprises, et quand il a pondu l'IRA, l'IRA est une arme de réindustrialisation massive. Et face à ça, c'est pas nous les petits Français avec nos petits bras qui allons nous battre contre l'IRA. Donc il y a besoin d'une coordination européenne, mais rapide et très efficace. Donc on est confronté à des puissances mondiales. Alors je parle même pas de la Chine, hein, puisque en Chine on ne sait même pas quelle est la mainmise exacte de l'État chinois sur les entreprises, où clairement ils contrôlent leur économie. Donc moi je ne suis pas protectionniste, bien évidemment, mais je pense aussi que si on joue au football tous ensemble, il faut que les mêmes règles s'appliquent à tous.
Emmanuel,
moi, je nuancerai un peu le propos de Laurent, la politique industriel, pour moi, ça marche d'abord si c'est très en amont, recherche-développement. Par contre, ça ne marche pas si, en effet, on donne des subsides en aval à des monopoles. Vous parliez de l'IRA, oui, on arrose avec beaucoup de subventions publiques, mais il faut voir à qui on donne. C'est-à-dire, tout le monde peut participer à la compétition. Et jusqu'à preuve du contraire, les grands innovateurs américains, ce sont quand même des self-made men. Enfin, Elon Musk n'est pas le fruit d'une politique industrielle. Et en Chine, quand on regarde, c'est la même chose. On oublie trop souvent de dire que la Chine, qui est aujourd'hui domine le marché de la voiture électrique, c'est pas un monopole public d'État, hein. Je crois qu'il y a une vingtaine de constructeurs. Donc, c'est intéressant. Concurrence en aval, et subventions publiques en amont. Moi, je n'oppose jamais la politique industrielle à la politique de concurrence. Je pense que c'est un faux débat. La politique industrielle, ça doit être vraiment sur de la R&D. Et autre point, je ne crois pas trop à l'idée qu'il suffit de mettre de l'argent pour rattraper. Enfin, le problème de l'Europe, pour moi, il n'est pas là. C'est qu'on est en retard. Moi, je connais très bien les semi-conducteurs. On est en retard. Donc, vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez. Oui, vous allez relocaliser. Vous allez peut-être produire des processeurs qui existent déjà.
Mais les grandes fonderies,
aller rattraper TSMC, hein, qui fait du moins de 2 nanomètres, pardon, moi j'y crois pas une seconde. Par contre, on est très très fort dans la production de machines avec ASML qui est un quasi monopole mondial. Donc il suffit pas de vouloir pour pouvoir. Il y a des retards qui malheureusement ne se rattrapent pas.
On n'est pas obligé d'être caricatural, rapidement. Je suis désolé. En matière, par exemple, de composants électroniques, la politique européenne comporte deux volets. Il y a un volet de production sur le sol européen de composants, effectivement, de type automobile, de 6, 8 nanos. Mais il y a également la volonté de créer, en mobilisant les efforts de recherche de différents groupes européens, et notamment de laboratoires belges, il y a la volonté de créer, à partir d'un transfert de laboratoires publics vers des entreprises, des composants de 2 nanos.
Ouais, pour l'instant, c'est TSMC qui vient s'implanter en Europe.
Hein. On va passer à la carte blanche de Laurent Vronsky pour aider les industriels. Vous dites, Laurent, il faut proposer des prix compétitifs pour l'énergie.
Oui, je pense que c'est un sujet. Alors c'est pas un sujet théorique. Beaucoup d'entreprises industrielles, dont la mienne, ont pu voir ce que ça voulait dire du jour au lendemain des coûts de l'énergie qui sont démultipliés. Alors là, on n'est pas sur des augmentations à deux chiffres. Hein, on est sur des augmentations à trois chiffres.
Et vous avez pu renégocier à la baisse depuis?
Alors, on a pu renégocier à la baisse, mais si vous voulez, d'abord, je pense deux choses. Je voudrais juste rappeler que le grand énergéticien français, que je ne citerai pas, on lui a demandé...
Il commence par un E qui finit par un F.
Par exemple, mais quand on lui a demandé de renégocier, il n'a rien renégocié du tout. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont trouvées dans des situations extrêmement difficiles. Je veux dire que vous ne pouvez pas réorganiser un outil industriel sur un espace-temps de trois semaines ou de un mois. Donc, quand il y a eu la guerre en Ukraine, nous utilisons le gaz pour nos process industriels. Hein, c'est pas juste pour se chauffer. Donc, c'est toute l'année. Hein. Du jour au lendemain, on a eu des prix mais complètement délirants. Et on a eu une note énergétique en 2023, si vous voulez, qui ne ferait pas lire un mort. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine de toute croissance économique et de toute révolution industrielle, il y a toujours eu de l'énergie. Et là, on est clairement dans une phase, et on va reboucler avec le premier sujet dont nous avons débattu ce matin dans votre émission, c'est qu'on est dans une phase où il va falloir faire une transition énergétique. Et j'insiste sur le mot « énergétique ». Et j'insiste aussi sur le temps long. Donc là, les Français redécouvrent les vertus de l'énergie nucléaire, mais c'est exactement comme l'armement. Il y a eu une période de blackout au niveau du développement des centrales de près de 40 ans. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où on a construit des centrales à une époque où on a maintenu les centrales. Ce n'est pas les mêmes compétences. J'en veux pour preuve les difficultés qu'on a aujourd'hui à faire sortir les EPR de terre. Donc pour pouvoir arriver à avoir une énergie qui soit à un prix convenable... Il va falloir, en mode accéléré, et là je rejoins Emmanuel, c'est pas juste de l'argent, il va falloir construire des compétences, ça va pas se faire en 24 heures. Il va falloir aussi financer ces secteurs, parce qu'on a aussi besoin de carburant, c'est pas juste des compétences, c'est aussi des carburants. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que le cas de M. Musk très intéressant, parce que c'est un projet public avec de l'argent public financé par un entrepreneur. Je referme la parenthèse. Peut-être qu'on a besoin de plus de projets comme ça en France. On a parlé du Covid, Doctolib est exactement le même exemple. Bon. Donc, moi, je dois vous avouer qu'en tant qu'industriel, je suis un tout petit peu inquiet, parce que je pense qu'au niveau du timing, on va avoir sans doute des problèmes, où on va avoir, si vous voulez, un fossé entre l'offre et la demande. Et je veux dire qu'un des piliers pour se réindustrialiser, et avant de se réindustrialiser pour maintenir l'outil industriel, c'est d'avoir des sources d'énergie qui soient des prix convenables. Je rappelle quand même que par rapport à nos concurrents asiatiques et nos concurrents nord-américains, on a été très très défavorisé par ça, parce qu'il n'y avait pas de crise énergétique aux États-Unis ni en Asie.
Parce qu'on était très dépendant du gaz russe.
On était très dépendant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, Emmanuel Combes, avec la politique européenne de l'énergie, la libéralisation du marché? Je sais que vous défendez souvent l'Europe, mais ça n'a quand même pas été une grande réussite.
Non, mais j'ai toujours dit que sur l'énergie, j'étais assez réservé. La concurrence, c'est pas une fin en soi. Enfin, ça dépend des secteurs. On est quand même dans des secteurs où il y a des monopoles naturels, où il y a des problèmes de coordination verticaux. Moi, j'ai jamais été un ayatollah de la concurrence sur l'énergie. Hein. Je l'ai toujours dit que c'était un secteur. Alors après, j'ai pas la réponse, hein. Mais la concurrence n'a pas réponse à tout.
Ouais. Élie Cohen.
Oui, je crois que c'est un peu facile de charger EDF en disant qu'il n'accepte pas de renégocier les prix. Il faut bien voir qu'on sort d'une période dans laquelle EDF a accumulé une dette considérable, tout en ayant arrêté effectivement ses investissements dans le renouvellement du parc à cause de la procrastination des pouvoirs publics. Et on s'est retrouvé dans une situation où, au nom des impératifs de concurrence, EDF devait vendre à perte à ses concurrents pour que ses concurrents gagnent des parts de marché.
Ça, c'est le principe de l'arène, mais ça va être terminé. C'est le principe de l'arène.
Oui, mais enfin, c'est quand même ce qui a été pratiqué au cours des derniers temps. Et on a vu un ministre dire qu'il allait réprimander les concurrents d'EDF qui trouvaient très pratique, avec l'énergie bon marché qu'ils achetaient auprès d'EDF, de la vendre sur le marché et de faire de gros bénéfices, au lieu de vendre aux consommateurs à des prix qui seraient justifiés. Donc, on était dans un design de marché qui n'était pas satisfaisant, clairement satisfaisant. Et donc, à partir de là, il faut rebâtir le système. Et il faut bâtir un système qui assure l'équilibre de long terme de la production d'énergie nucléaire nouvelle, avec des prix qui soient rémunérateurs pour EDF et qui permettent de faire face aux charges courantes et aux charges de la dette.
Laurent, une réaction rapide?
Oui, alors justement, celui auquel je pensais, ça commence pas avec un E, ça commence avec un T. puisque j'ai parlé du gaz. Et justement, par rapport à ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, on a eu des injonctions de l'autre ministre des Finances qui a dit au mauvais thé, ah, il faut renégocier les prix du gaz avec les entreprises. Ce qu'évidemment, ils n'ont pas fait. C'est un opérateur privé. D'où l'intérêt, je veux dire, qu'il ne faut pas à chaque fois se retourner vers l'État qui ne pourra pas tout. Je veux dire, c'est pas Gérard Majax. Il faut simplement qu'on arrive à financer cette transition énergétique. Et le problème auquel on va être confronté, c'est que comme les finances publiques sont au plus bas, premier thème que nous avons abordé dans votre émission, on ne pourra pas tout faire à la fois. Et on est à un rendez-vous avec l'histoire.
On termine par la carte blanche d'Emmanuel Combes, c'est-à-dire dans l'Opinion, c'est une tribune. Ça parle du DMA, le Digital Market Act, et vous dites ce sont trois lettres qui changent tout.
Oui, alors qu'il change tout pour les consommateurs et les utilisateurs de manière générale, puisque en deux mots, le DMA, qu'est-ce que c'est? C'est on prend les six grands gatekeepers, les six grands contrôleurs d'accès, on les connaît, Amazon, Google, etc., et on leur impose des obligations et des interdictions. Il y a un côté très très strict. Hein. On est vraiment dans de la régulation ex ante.
L'entrée en vigueur, c'était il y a un mois.
C'était il y a un mois. C'était exactement il y a un mois. Et on voit bien d'ailleurs tout ce qui est interdit, tout ce qui est autorisé, ce sont en tout cas les interdictions, c'est des pratiques qui ont déjà été condamnées par les autorités de concurrence. Donc on a gravé dans le marbre un certain nombre de pratique. Je prends un exemple, l'auto-préférence. J'ai le droit d'avoir un service de comparateur de prix, Google Shopping pour ne pas le nommer, mais pour autant, je ne dois pas désavantager les comparateurs concurrents. Donc je pense que ça va vraiment changer la vie des consommateurs, notamment l'interopérabilité. On va pouvoir passer d'une messagerie à l'autre de manière beaucoup plus simple. Également pour les entreprises qui vont se connecter à ces écosystèmes, qui vont pouvoir proposer d'autres applications. Mais je trouve que ce texte, il est en demi-teinte. C'est-à-dire d'un côté, je trouve que c'est une bonne chose de réguler, ex ante. Je constate d'ailleurs que les Américains sont en train d'ouvrir des enquêtes pour faire ce que nous, on a fait par la régulation. La semaine dernière, enquête du département américain de la justice contre Apple, justement sur des problèmes d'interopérabilité, l'Apple Watch qui n'est pas compatible, etc. Et en même temps, j'ai quand même deux remarques, deux petites nuances. La première, c'est que, à défaut d'avoir des géants du numérique, on les régule. Et c'est un peu la reconnaissance qu'en réalité on a échoué en matière numérique. Moi je ne crois pas que ça va remettre en cause les positions dominantes, sans doute légitimes, de Google, d'Amazon. Donc il nous reste plus que la régulation, et tant mieux, la régulation faute de mieux. Et puis deuxièmement, attention, il peut y avoir des effets pervers. Je prends un exemple très concret. Les géants du numérique sont accusés donc de self-preferencing, d'avantager leurs propres services. Donc désormais ils vont devoir présenter les services des autres à rang égal. Donc, c'est-à-dire que vous aurez Google Shopping, mais aussi tous les autres comparateurs de prix. Ou d'hôtels, prenons le cas des hôtels, Google Hôtel, etc. Et donc, ça veut dire que vous allez rajouter, quand vous allez taper sur un moteur de recherche le nom d'un hôtel, vous allez rajouter une nouvelle couche. Donc, il y aura les liens publicitaires. Puis, vous aurez tous les comparateurs de prix, ce qui fait que les hôteliers eux-mêmes, indépendants, vont se retrouver encore dégradés. Donc, paradoxalement, on va renforcer Booking. Donc, c'est assez amusant. Au nom du DMA, vous allez éviter que Google Hôtel ne soit mis en avant par rapport à d'autres comparateurs. Donc, vous allez mettre en ligne plus favorablement les autres comparateurs en ligne et les autres OTA. Et en fait, vous allez favoriser paradoxalement des intermédiaires. Je ne dis pas que c'est mal ou bien. Est-ce que le but final est qu'il y ait de l'intermédiation partout? Donc, paradoxalement, vous allez avoir des effets pervers qu'on n'a peut-être pas toujours soupçonné.
Mais c'est quand même une bonne régulation. Tout cela est une bonne nouvelle pour le consommateur. Enfin, la RGPD, la réglementation sur les données personnelles. Maintenant, quand vous allez sur n'importe quel site internet, vous devez cocher je ne sais pas combien de cases avant de pouvoir accéder au site.
Il y a toujours un coût à la régulation. Mais je pense quand même l'idée de remettre des espaces. Il faut voir que le DMA, l'esprit, c'est quoi? C'est remettre de la loyauté. C'est-à-dire, en fait, quand je suis dominant, je dois traiter mes propres consommateurs. Regardez la difficulté à se désabonner. Normalement, vous devez pouvoir vous désabonner aussi facilement que vous vous abonnez, tous les fameux dark patterns. Donc je trouve qu'il y a quand même une utilité pour le consommateur, et au-delà du consommateur, pour les petites entreprises qui vont pouvoir venir challenger, mais non pas l'écosystème, qui vont pouvoir venir se connecter à l'écosystème. Donc c'est un texte en double teinte, parce que je trouve que d'un côté, elle est nécessaire, cette régulation. C'est l'échec de la politique de la concurrence qui a été trop lente, qui venait souvent après la guerre. Tout ça maintenant est régulé. Interdiction, obligation. Attention, les sanctions sont très dures,
Oui.
Très dures. Vous avez vu les 5 enquêtes qui viennent d'être ouvertes par la Commission. Donc il y a un côté. Mais en même temps, on voit bien que c'est pas ça qui fera que demain on aura un Google européen, malheureusement.
Rapide réaction.
Oui, rapide réaction. Je crois que l'Europe a l'habitude de se vanter d'être un empire de la régulation et de fixer la norme qui est souvent adoptée ailleurs.
Ce n'est pas complètement faux.
Mais au même moment, Thierry Breton a dit qu'il était confiant que dans les 5 ou 10 ans, il y aurait des champions européens de l'IA et du numérique. Est-ce qu'on peut à la fois dire qu'on va favoriser l'émergence et le développement de champions du numérique européen et mettre toute son énergie dans la régulation? Tu as parlé du DMA, mais il y a aussi le DSA. Est-ce qu'en multipliant les régulations, on est sûr de pouvoir en même temps contribuer à l'émergence de champions du numérique?
Oui.
Oui, je pense. Moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, le vent qui souffle depuis trois mois, lancé par les agriculteurs, est un mal français et un mal aussi européen, qui est la surtransposition, l'inflation des normes, des droits, etc. Et je pense que beaucoup de lois inutiles affaiblissent celles qui le sont.
Un dernier mot.
À la fin des fins, l'IA générative, le numérique, ça s'appelle beaucoup d'argent. C'est peut-être ça le nerf de la guerre. Vous pouvez réguler autant que vous voulez, il faut mettre quand même des sommes considérables. Enfin, on le voit sur l'IA générative, on parle souvent de milliards de dollars. Hein. Donc à la fin, est-ce qu'on a cette capacité, comme le disait Élie tout à l'heure, sur la R&D, à se projeter sur un horizon 5 ans, 10 ans et se dire on y va?
Et on espère qu'in fine, l'Europe saura faire autre chose que de jouer les arbitres, hein, qu'un jour on sera sur le terrain avec le maillot de numéro 10. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS. Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur à la Schema Business School. Et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor. Vous êtes également membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Fin de cette émission, dans un instant, tout pour investir avec Lorraine Goumeau. Je vous retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.